Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. C'est une découverte exceptionnelle. Une nécropole gallo-romaine datant du 2e siècle après Jésus-Christ a été découverte dans le 14e arrondissement de Paris à l'occasion des travaux pour le RERB. Et il s'agit de la plus grande nécropole gallo-romaine de Lutèce. Depuis le 6 mars 2023, les archéologues mènent des fouilles pour mettre à jour de nouveaux trésors historiques. Pour en discuter, je reçois l'archéologue et anthropologue Camille Colonna, responsable des recherches archéologiques à l'Institut National de Recherche Archéologique, préventive, c'est-à-dire l'INRAP. Bonjour Camille Colonna.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel contexte cette nouvelle nécropole gallo-romaine a été découverte ?
Oui, alors en fait, en archéologie préventive, c'est l'État qui fait les prescriptions de diagnostic et de fouilles. Et donc là, il y a eu un projet qui a été déposé pour construire une nouvelle sortie du RERB à la station Port-Royal. Et vu qu'on est dans Paris et l'emplacement, l'État a prescrit un diagnostic. Donc un diagnostic, c'est l'étape avant la fouille. On fait des sondages à l'endroit de la construction pour savoir s'il y a un potentiel archéologique. Et donc on est venu faire un diagnostic l'année dernière. Et dans les deux petits sondages qu'on avait faits, on a trouvé trois sépultures. Et on a pu en fouiller une. Et cette sépulture contenait une petite monnaie dans la bouche de l'individu. Et ce qui nous a permis de la dater très précisément.
C'est l'avantage de l'obole à carreaux.
Exactement. Et grâce à ça, on a pu...
Qui est donc la pièce du passeur.
Exactement. Et donc grâce à ça, on a pu rattacher ces sépultures à cette grande nécropole. Et du coup, l'État a prescrit une fouille sur toute l'emprise des travaux.
Alors justement, Camille Colonna, rappelez-nous exactement la définition d'une nécropole.
Alors ben, une nécropole, en fait, c'est comme un cimetière, c'est un endroit où on enterre les gens. Et en fait, on utilise le mot nécropole lorsque c'est un groupement de sépultures qui n'est pas rattaché à un lieu de culte comme une église, par exemple.
Et pourquoi ce lieu a été choisi dans l'Antiquité pour devenir une nécropole? Est-ce qu'il avait des particularités?
Oui, alors en fait, à l'époque antique, le monde des morts et le monde des vivants, il est complètement séparé. Et donc, les Gallo-Romains enterraient leurs morts à l'extérieur des villes et le long des voies romaines, qui étaient l'accès aux villes. Et comme ça, les morts étaient vraiment regroupés tous ensemble et étaient visibles le long des voies.
Et alors justement, en quoi consistent les rites funéraires dans l'Antiquité gallo-romaine? Est-ce qu'il y a de l'incinération, de l'inhumation?
Oui, alors...
Cela cohabite?
Oui, exactement, ça cohabite. En fait, jusqu'au 2e siècle à peu près, les Romains, ils pratiquent l'inhumation, donc c'est enterrer les gens, et l'incinération. En fait, à partir du 3e siècle, c'est l'inhumation qui prend le pas sur l'incinération. C'est probablement dû à l'influence de la chrétienté. Hein. Et dans le cas des incinérations, en fait, les corps ils sont déposés sur un bûcher à ciel ouvert et avec des offrandes, et puis ils sont brûlés, comme on fait nous aussi.
Et si je me souviens bien de mes cours d'archéologie, les cendres sont placées dans une urne cinéraire, et il me semble que certaines ont été fouillées, et qu'on voit que les cendres ne sont pas mises de manière éparse, mais qu'on trouve les pieds, les jambes, le bassin, enfin ce qui reste des autres, enfin, dans l'ordre en fait du squelette.
Oui, alors ça dépend des périodes, parce que l'incinération, il y a aussi les Gaulois qui pratiquaient l'incinération. Donc ça dépend des périodes, et en fait l'étude des incinérations, c'est assez compliqué. Parfois, c'est dans un contenant, effectivement, dans un pot, mais ça peut être aussi un contenant qui n'est pas conservé. Ça peut être une vannerie, ça peut être du cuir, quelque chose comme ça. Donc ça, nous, on le retrouve pas. Ou ça peut être juste dans un trou, dans une fosse, dans la terre. Et il y a plusieurs gestes. Ça peut être, ils ont ramassé que quelques poignées du reste du bûcher, ou ils récupèrent vraiment l'intégralité des ossements qui sont brûlés pour les déposer dans un contenant.
Et là, sur cette nécropole parisienne du 2e siècle, qu'est-ce que vous avez retrouvé? À quoi ça ressemble?
Eh ben, cette nécropole, donc en fait, là, c'est que des inhumations. Donc en fait, ils ont creusé des fosses, des grandes fosses dans lesquelles ils ont déposé des cercueils, parce que nous, toutes les inhumations qu'on a trouvées, c'est des inhumations en cercueil. Donc, on n'a pas trouvé les traces de bois, parce que le sédiment ne le permet pas. Par contre, on a tous les clous qui ont servi à fabriquer le cercueil, qui sont encore en place. Et donc, on arrive très bien à voir les limites des cercueils. Et puis, à l'intérieur, eh bien, on a le squelette et parfois des offrandes qui vont avec. Et donc, nous, on a trouvé une cinquantaine de sépultures. Et parmi ces sépultures, on a des hommes, des femmes et des enfants. Et ça, c'est sur une parcelle d'environ 200 mètres carrés.
Alors, distinguer les enfants, ça semble aisé de par leur taille, mais comment vous distinguez les sépultures d'hommes et de femmes ?
Alors, en fait, ça, c'est vraiment grâce au squelette. Pour déterminer le sexe d'un individu, il faut que l'os coxal, donc c'est le bassin, soit bien conservé. Et maintenant, on a des méthodes vraiment très sûres, donc c'est une méthode métrique, on fait une dizaine de mesures sur l'os du bassin, et ça nous permet de déterminer de façon certaine si c'est le squelette d'un homme ou le squelette d'une femme.
Tout simplement parce qu'un squelette de femme doit permettre à un bébé de passer pour sortir lors d'un accouchement, ce qui n'est pas le cas dans un bassin masculin.
Voilà, les bassins, c'est le seul os qui a une différence entre les hommes et les femmes. Voilà. Tous les autres, c'est pas une femme peut être très grande, un homme peut être très petit. Donc ça, la taille ou la robustesse ne permet absolument pas de déterminer le sexe d'un individu.
Et alors, qu'est-ce qu'on a retrouvé comme objet ? Parce que les morts sont toujours accompagnés de divers petits objets.
Oui, alors pas tous. Là, c'est à peu près la moitié où il y avait des offrandes. En fait, c'est surtout des contenants. Donc les contenants en céramique, donc ça peut être des plats, des bols, des gobelets, des cruches. Et ça peut être aussi des contenants en verre. Et là, on en a retrouvé quand même de façon assez significative et surtout en très très bon état. Et puis dans une sépulture, il peut y avoir un seul contenant, mais il peut aussi y en avoir beaucoup. On a une sépulture où il y a 8 vases, par exemple. Et ces offrandes, elles servaient à accompagner le mort, et elles contiennent généralement, en fait, il y avait des restes de nourriture ou des liquides. Donc les liquides, ça peut être pour boire, comme du vin, mais ça peut être aussi des préparations pour pharmaceutiques ou pour des préparations de beauté, donc des onguents, des choses comme ça, quoi. Et on a aussi retrouvé des restes de vêtements, alors pas du tissu, ça se conserve pas. Par contre, on a retrouvé les traces des chaussures qui étaient en cuir.
Quand vous dites les traces, ça veut dire qu'elles ont laissé des marques dans la terre qui s'est condensée autour du squelette.
Alors en fait, non, c'est parce que les semelles des chaussures étaient faites avec des clous. Et donc nous, ce qu'on trouve, c'est tous les clous qui formaient la semelle de la chaussure. Et donc on retrouve vraiment, on peut voir la forme de la semelle, quoi. Et donc ça peut être les chaussures, parfois elles sont en position de port, donc attachées au pied, mais elles sont aussi parfois déposées en offrande. Et il peut y avoir plusieurs paires de chaussures déposées en offrande dans le cercueil.
Et puis quand on fait des fouilles, il y a quand même des objets qui sont extraordinaires, ce sont les monnaies. Qu'est-ce que permet une monnaie sur un chantier de fouilles ? Pour vous, archéologue.
Nous, vraiment, la monnaie, ça nous permet vraiment de dater de façon assez précise, parce que les monnaies, surtout l'Antiquité, elles sont frappées à la tête des empereurs, donc ça nous donne une datation très précise. Plus précise d'ailleurs que les céramiques, parce que nous, on date aussi la céramique, le type de céramique, la façon dont elle est construite, la façon dont elle est cuite, la forme, la couleur, ça, c'est nos marqueurs vraiment spécifique en archéologie. La principale datation en archéologie, c'est fait avec la céramique. Mais une monnaie, c'est beaucoup plus précis.
Et alors justement, quel type de monnaie trouvez-vous ? Qu'est-ce qu'elle vous raconte sur l'histoire de cette nécropole ?
Elle nous confirme que cette nécropole, elle a bien été utilisée au IIe siècle. Et que au IIe, la plus grande partie de son utilisation, c'est au IIe. Qu'elle se prolonge au IIIe siècle. Et le mobilier là qu'on a sorti pendant la fouille va être étudié. Maintenant qu'on a fini le chantier, on va étudier tout le mobilier. Et donc, ça va nous permettre de dater plus précisément, savoir peut-être qu'elle a commencé à être utilisée un peu plus tôt que le deuxième, et à quel moment du deuxième elle a été utilisée, et jusqu'à quand. Parce que c'est au troisième, mais le troisième, c'est long. Et puis, peut-être qu'elle a même été utilisée jusqu'au quatrième siècle. Donc, c'est vraiment toutes les données de terrain qui vont nous permettre d'affiner ces datations.
Et je reviens sur les monnaies, parce que c'est un peu ma marotte. Vous avez trouvé de la monnaie de bronze, des deniers en argent, des oreillers en or?
Oui, on n'a pas, en tout cas, nous, ce qu'on a trouvé, ça arrive, hein, on peut trouver des monnaies en or ou en argent. Nous, c'est vraiment de l'alliage cuivreux, donc c'est plutôt du bronze, ouais.
Et, est-ce que vous avez trouvé des bijoux aussi? Alors, on imagine forcément des parures. À quoi ça ressemble, les bijoux que vous avez trouvés?
Alors, je vais vous décevoir parce qu'on en a très peu trouvé. Donc, c'est très fréquent dans les inhumations antiques de trouver des bijoux, puisque encore une fois, les personnes qui sont inhumées sont habillées. Et donc, souvent, on met de la parure, des objets de parure. Donc, ça peut être des colliers, ça peut être des bagues, ça peut être des fibules. Donc, les fibules, c'est des broches qui servaient à tenir les vêtements et qui, en général, étaient très, très joliment décorées. Donc, nous, on a trouvé quelques fibules. Et quelques objets Alors c'est pareil, ça va être étudié, hein, donc pour l'instant c'est, je peux pas être catégorique, mais c'est souvent des objets qui sont cousus sur les vêtements, donc ça peut être des comme des boutons ou des ou de la décoration, ça peut être en os et ça peut être en alliage cuivreux, voilà. Donc ça, on a trouvé des petits jeux comme ça, mais effectivement nous sur notre chantier on en a pas trouvé beaucoup.
Et alors à quoi ressemblait Lutèce au IIe siècle pour avoir une telle nécropole?
Alors Lutèce au IIe siècle, en fait, elle se situe exclusivement sur la rive gauche de la Seine. Et donc, elle s'étend vers le sud jusqu'au Val-de-Grâce. Donc, c'est quand même assez grand. C'est pas du tout la plus grande ville, hein, de cette époque, hein. C'est Lyon est une ville antique plus grande, voilà. Mais c'est quand même, au deuxième siècle, c'est le moment où Lutèce est la plus grande. Et c'est le moment où il y a encore tous les grands monuments publics, comme les arènes, le forum, les thermes. Donc, tous ces monuments, ils ont été construits au premier et deuxième siècle. Donc, c'est vraiment la ville romaine, comme on peut se l'imaginer, quoi.
Et cette nécropole, qu'on appelle la nécropole de Saint-Jacques, si je ne m'abuse, elle avait déjà été partiellement fouillée au XIXe siècle. Donc, on la connaissait. Qu'est-ce qu'elle avait livré à cette époque-là?
Oui, en fait, on dit qu'elle s'appelle la nécropole Saint-Jacques parce qu'elle est installée le long de la rue Saint-Jacques, qui était le Cardo Maximus, donc c'est l'axe principal d'accès à Lutèce, l'axe nord-sud principal d'accès à Lutèce. Et donc au XIXe siècle, il y a Haussmann, qui fait des grands travaux dans Paris, comme on le sait, et il y a une personne qui s'appelle Théodore Vaquet, qui a suivi tous les travaux d'Haussmann, et c'était l'archéologue de cette époque-là, et qui a noté, qui a fait des dessins, qui a enregistré ce qui a été fouillé et sorti pendant les travaux de façon assez précise. Grâce à lui, on savait qu'il y avait cette nécropole. Ils ont trouvé à peu près 400 inhumations de cette nécropole au XIXe siècle. Par contre, ils fouillaient pas du tout comme nous, hein. C'est-à-dire que, pour être clair, ce qui les intéressait, c'est les beaux objets. Donc, ils ramassaient les beaux objets. Mais par contre, ils regardaient pas les modes d'inhumation. Ils étaient pas capables de dire si c'était un homme ou une femme. Il y avait pas toute l'anthropologie et l'archéologie qu'on fait maintenant, quoi.
Alors, ce qui est fascinant, c'est de remarquer que les ossements, justement, dont vous parliez, qui n'intéressaient pas au XIXe siècle, sont quand même en très bon état, qu'on a trouvé beaucoup de petits objets. Comment expliquer la qualité de la conservation de ces objets? C'est le sol parisien, c'est la proximité du RER qui a fait qu'on n'a pas touché au terrain?
Eh ben, en fait, justement, c'est pour ça que c'est assez exceptionnel de fouiller cette nécropole. Alors, premièrement, parce qu'elle est du deuxième siècle et que c'est très rare de fouiller des inhumations de cette période-là à Paris. Et deuxièmement, parce que c'était bien conservé et qu'elle a été miraculeusement sauvée, parce que le RER, en fait, passe vraiment, c'est le bord du chantier. En fait, le RER, il a été construit dans les années 70 par le haut. En fait, maintenant, on construit en faisant des tunnels, en passant par en dessous. Donc, on détruit pas les niveaux qui sont au-dessus. À cette époque-là, on construisait en passant par la surface. Et donc, une partie de la nécropole a été détruite à cette période-là. Et donc, nous, cette petite parcelle, elle n'a pas été touchée par le RER et elle n'a pas été touchée par les constructions d'Haussmann. Donc, c'est vraiment un petit miracle. Et en plus, après la nécropole, il n'y a pas eu de construction à l'époque du Moyen-Âge ou postérieur, ce qui fait que elle a été conservée, en fait. Et la conservation des ossements, ça, c'est vraiment qu'une question de sédiments dans lequel il reste, quoi. Donc, là, c'est plutôt sableux. Et ça nous a permis, ce sédiment a fait que les ossements étaient quand même assez bien conservés.
Bah c'est formidable, vous avez trouvé une petite capsule temporelle qui va nous permettre d'en savoir plus sur Lutèce au IIe siècle. Merci Camille Colonna.
Je vous en prie.
C'était un échange vraiment passionnant sur ces fouilles de la nécropole Saint-Jacques. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Et moi je vous dis à très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.